biographie d'Alexandre Maine, figure d'un martyr de l'œcuménisme pour notre temps, une émission spéciale sur Radio Espérance dans le temps de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens.
Suite de la biographie d'Alexandre Maine, nous en sommes à la troisième édition. Prêtre orthodoxe, russe et martyr de notre temps. Il fut l'ami d'un très grand nombre d'intellectuels et de grands mystiques européens, dont Solzhenitsyn et Sakharov. Il rencontra également Mgr Lustiger peu avant sa mort. Troisième partie donc, aujourd'hui nous parlerons de son enfance. Les parents d'Alexandre Maine appartenaient à une génération qui, dans l'ensemble, n'éprouvait guère d'état d'âme et construisait la société future sans se poser de questions métaphysiques. Son père, après des études techniques dans un institut de Kiev, avait obtenu un diplôme d'ingénieur des textiles et se donnait entièrement à son travail. D'origine juive, il avait perdu la foi dans son enfance sous l'influence de son instituteur, sans pour autant devenir un athée militant. Toute idée religieuse lui était étrangère, mais il était tolérant. En revanche, sa mère, Elena, avait un sentiment religieux très profond. Née elle aussi de parents juifs, elle avait elle-même été élevée par sa mère dans l'amour de Dieu, créateur de l'univers et aimant tous les hommes. Quand j'entendis parler pour la première fois de la crainte de Dieu, se souvenait-elle, je demandais à maman « Dieu, nous l'aimons. Comment pourrions-nous avoir peur de lui ?» Maman me répondit « Nous devons avoir peur de lui faire de la peine par une mauvaise action. » Je fus pleinement satisfaite par cette réponse. Elena fut également très influencée par sa grand-mère. On racontait avec fierté dans la famille comment celle-ci avait été guérie par Jean de Kronstadt en personne. À Kharkov, en 1890, restée veuve avec 7 enfants, elle était tombée malade. Les médecins n'arrivaient pas à la soigner. Un jour, une voisine lui dit que le célèbre prédicateur était de passage dans la ville et la persuada d'aller le trouver. L'église et la place étaient bondées, mais la voisine l'aida à se frayer un passage à travers la foule jusqu'à lui. Il la regarda et lui dit « Je sais que vous êtes juive, mais je vois en vous une foi profonde en Dieu. Prions le Seigneur et il vous guérira. » Un mois plus tard, elle était complètement rétablie. Dès l'enfance, Elena fut attirée par le christianisme. À l'âge de 9 ans, elle annonça à sa mère qu'elle voulait se faire baptiser. Et la nouvelle fit l'effet d'une bombe. Pour détourner la colère maternelle, son frère cassa un carreau. Quelques années plus tard, elle se mit à fréquenter les offices d'une communauté baptiste. Un jour, elle assista, très impressionnée, à un baptême d'adultes dans la rivière. Ses contacts avec les baptistes provoquèrent de nouvelles disputes à la maison. Finalement, après qu'elle se fut réconciliée avec ses parents, sa cousine Vera vint la chercher à Kharkov et l'emmena à Moscou. Elena se fixa définitivement à Moscou et s'y maria. Le concile de 1917-1918 s'était entre autres donné pour but de restaurer les paroisses comme autant de petites églises sur le modèle des premières communautés chrétiennes. Le patriarche Tikhon était lui-même très attaché au renouveau de la vie communautaire dans les paroisses. Dans ce but, après la Révolution, des laïcs s'étaient notamment regroupés en fraternité. On pourrait presque dire en communauté de base avant la lettre, autour de quelques prêtres doués d'une forte personnalité. le père Séraphime. Il était à Saint-Kyrios et Saint-Jean. Malgré une vocation précoce, il avait fait des études techniques et avait exercé un métier civil avant d'être ordonné prêtre en 1919, alors qu'il avait déjà 39 ans. Ayant choisi le célibat, il avait pu devenir moine peu après. C'était le patriarche Tikhon lui-même qui lui avait confié la paroisse Saint-Kyrios et Saint-Jean. Avant la Révolution, le père Séraphime fréquentait le monastère d'Optino et s'était placé sous la direction spirituelle d'un des Starci. Le père Séraphime n'avait pas accepté la déclaration de 1927 et était passé dans la clandestinité. Il était entré dans l'obédience de Monseigneur Athanase, un des évêques qui ne reconnaissait pas l'autorité du métropolite Serge. Après avoir changé plusieurs fois de cachette, le père Séraphime avait trouvé refuge dans une maison à Zagorsk, auprès de deux religieuses chassées de leur couvent. Une petite chapelle avait été aménagée dans une des pièces et il y disait la messe en secret. Elena et Vera, sa cousine, faisaient régulièrement le trajet de Moscou à Zagorsk pour aller auprès du père Séraphime. Avec quelques autres de ses enfants spirituels, elles participaient chaque fois qu'elles le pouvaient aux offices qu'il célébrait. Vera a rapporté le souvenir de sa première nuit de Pâques. Avant de commencer l'office, le père envoya quelqu'un s'assurer que dans la rue, on ne pouvait pas entendre les chants. Puis, la veillée pascale commença et la petite maison se transforma en un temple de lumière où tous étaient unis par le même et incomparable sentiment, la joie de la résurrection. On fit la procession à l'intérieur de l'isba, dans la pièce d'entrée et le couloir. Le père remit à chacun une icône pour qu'il y participe. N'est-ce pas ainsi que l'on se représente les premiers chrétiens au temps de la persécution romaine? Les catacombes du XXe siècle, c'est justement le titre que Vera donnera à ses mémoires. En janvier 41, le mari d'Elena fut arrêté, non pour une raison politique, mais sous une accusation de malversation. À la fin de l'année, il fut acquitté et relâché. En juin 41, les armées hitlériennes avaient franchi la frontière soviétique. Le pays allait devoir endurer de nouvelles et terribles souffrances. Si Staline resta terré pendant 10 jours, le métropolite Serge rédigea le jour même une lettre pastorale appelant les orthodoxes à défendre la patrie. Quand Staline reparut, après un habituel « camarade citoyen », il ajouta la salutation par laquelle les prêtres commencent traditionnellement leur sermon « frères et sœurs ». Curieux changement de vocabulaire. Par l'intermédiaire de Vera, le père Séraphime conseilla aussitôt à Elena de trouver un logement à Zagorsk, de s'y installer avec ses enfants. Au grand étonnement des amis et connaissances, surtout lorsqu'en automne, devant l'approche des troupes ennemies, les moscovites se mirent à fuir la capitale. Le père Séraphime était convaincu que le lieu était placé sous la protection de Saint-Serge. Le père Séraphime mourut en début 1942. Il fut enterré en secret dans la cave. Quelque temps auparavant, sentant sa fin venir, il avait tenu à recevoir la première confession d'Alic. Alic, c'est Alexandre. Bien que ce dernier n'eût pas encore 7 ans. Je me suis senti avec grand-père comme si j'étais au ciel avec le bon Dieu, rapporta l'enfant. Il me parlait aussi simplement que si nous étions en train de bavarder. Quant au père Séraphime, il avait prédit depuis longtemps aux deux cousines, grâce à ce que vous endurez et au sérieux avec lequel vous l'élevez, votre Alic sera un grand homme. Dans une lettre qu'il écrivit, le père Alexandre a indiqué quelle signification avaient eu pour lui toutes ses rencontres avec ces hommes et ces femmes de Dieu. Mon enfance et mon adolescence se sont écoulées auprès du père Séraphim et du père Alexis Metchev, sous l'ombre de Saint-Serge. Là, j'ai souvent vécu chez la défunte mère Marie, qui pour beaucoup a déterminé ma voie et mon orientation spirituelle. Passant sa vie dans l'ascèse et la prière, elle était entièrement exempte d'hypocrisie, de bigoterie et d'étroitesse, traits que l'on rencontre assez souvent chez les personnes de son état. Toujours emplie de la joie pascale, d'un profond dévouement à la volonté divine, du sentiment de la proximité du monde spirituel, elle rappelait d'une certaine manière Saint Séraphim ou Saint François d'Assise. Elle avait un trait qui la rapprochait des Tsartsi d'Opino et qui mettrait très cher chez eux, c'est l'ouverture aux hommes, à leurs problèmes, leurs recherches, l'ouverture au monde. C'est justement cela qui attirait à Opino les meilleurs représentants de la culture russe. Après une longue coupure, Opino a en effet renoué le dialogue entre l'Église et la société. C'était une entreprise d'une importance exceptionnelle, en dépit de la méfiance et de l'opposition des autorités. Je voyais un prolongement vivant de ce dialogue dans la personne du père Séraphim et de mère Marie. C'est pourquoi l'idée s'est gravée en moi, pour toute la vie, qu'il ne fallait pas interrompre ce dialogue et que je devais y participer de mes faibles forces. La formation d'Alexandre Mène. Dès le début des hostilités avec l'armée allemande, les autorités soviétiques, pour mobiliser la population contre l'agresseur, en appelèrent au sentiment national plutôt qu'à la défense de l'idéal communiste. Or, l'identité russe est étroitement liée à l'orthodoxie. De plus, les événements avaient montré aux dirigeants que la religion ne s'était pas éteinte avec la construction du socialisme, comme le claironnait tout leur manuel. Dans les territoires envahis par les troupes nazies, les habitants avaient spontanément rouvert les églises, qui dès lors ne désemplissaient pas. Les autorités d'occupation laissant faire. Enfin, l'URSS, pour améliorer ses relations avec ses nouveaux alliés, les États-Unis et la Grande-Bretagne, avait intérêt à améliorer son image et devait pouvoir rassurer le monde extérieur sur la situation des croyants. En septembre 1943, Staline reçut Mgr Serge, accompagné de deux autres prélats, et autorisa la réunion d'une assemblée d'évêques qui désigna Mgr Serge comme patriarche. Celui-ci mourut bientôt, et en février 1945, quelques mois avant la fin de la guerre, un concile pût être convoqué, qui élit un nouveau patriarche, Alexis Ier. L'Église orthodoxe put reconstituer son administration, nommer un évêque à la tête de chaque diocèse. Si le concile fut ultra rapide et se déroula sans débat, il eut le temps d'adopter un nouveau statut de l'Église qui surtout confirmait la place des curés à la tête des paroisses. Les autorités ne firent pas refermer les églises et les monastères rouverts dans la partie du pays qui avait été soumis à l'occupation allemande. En revanche, dans l'Est et le Nord qui avaient échappé, les réouvertures furent beaucoup moins nombreuses. Et par exemple, le seul monastère qui ait pu à nouveau accueillir des moines est celui de la Trinité Saint-Serge. Tous les établissements qui préparaient les prêtres ayant été supprimés après la Révolution, l'Académie de théologie de Moscou et un séminaire furent reconstitués, d'abord dans les bâtiments du monastère Novodievitchi, puis transférés à Zagorsk, au monastère de la Trinité Saint-Serge. L'Église se voyait toujours interdire toute forme de présence active dans la société. La seule liberté qui lui a été vraiment accordée était celle de célébrer les offices religieux. Elle était considérée un peu comme une réserve d'Indiens que l'on ne massacrait plus, pourvu qu'ils ne sortent pas de leurs limites. Au fond, ce qui lui était octroyé, c'était la possibilité de s'organiser pour satisfaire les besoins religieux de la population, selon la formule ironique de Marx, qui les assimilait à des besoins physiologiques. Les dix besoins étant compris par les autorités soviétiques comme le seul exercice du culte. Par ailleurs, l'Église restait placée sous haute surveillance. Un organisme spécial, le Conseil pour les affaires de l'Église orthodoxe, auprès du Conseil des ministres de l'URSS, fut créé, certes pour servir d'intermédiaire entre les organisations religieuses et les pouvoirs publics, mais aussi pour exercer, en liaison étroite avec la police politique, un contrôle permanent sur toutes les activités de l'Église. Siégeant à Moscou, il avait un délégué dans chaque région. Un conseil similaire fut chargé des autres religions. Le pouvoir soviétique entreprit de se servir de l'Église à des fins de politique étrangère. La hiérarchie orthodoxe fut autorisée à établir des relations avec le monde extérieur, à condition que ses représentants fassent passer les messages de la propagande soviétique auprès des milieux sur lesquels les partis communistes n'avaient pas prise. Enfin, pas plus que les autres habitants du goulag, les croyants détenus dans les camps ne bénéficièrent d'une amnistie générale. Ainsi, Mgr Athanase, les pères Hiérac et Piotr continuèrent-ils à purger leur peine. Et les arrestations de croyants n'avaient pas définitivement cessé. Néanmoins, l'Église avait pu se relever. Et si des communautés subsistèrent par la suite dans la clandestinité, il semble qu'elles aient été peu nombreuses. Ainsi, en 1945, du camp où ils étaient prisonniers, Mgr Athanase, le père Hiérac et le père Piotr réussirent à faire parvenir à leurs fidèles une lettre dans laquelle ils expliquaient leur position. Le nouveau patriarche avait été désigné de manière régulière et incarnait réellement l'unité de l'Église. Si certains actes d'Alexis Ier et du patriarcat pouvaient choquer les orthodoxes les plus fervents, c'est le patriarche qui aurait à en répondre devant Dieu. Mais ce n'était pas une raison pour que les fidèles se privent de la grâce des sacrements. À Moscou, la renaissance de l'Église était particulièrement sensible. Non seulement on avait rouvert des églises et une assistance nombreuse se pressait aux offices, mais les fidèles pouvaient y entendre des prédicateurs de talent et dans quelques-unes suivre des cycles de conférences sur des sujets religieux. Dans l'une d'elles, un prêtre faisait même dresser un écran et illustrait son exposé par des projections de diapositives sur la Bible. Ce regain d'activité dura à peu près jusqu'en 1950. Ceux des membres des paroisses actives d'après la Révolution, qui avaient survécu à la clandestinité et au goulag, s'efforcèrent de reconstituer leur cercle. Ce fut le cas des anciens paroissiens, des deux pères Metchev. et s'y réunissaient notamment chez Boris Vassiliev, ethnographe et historien, auteur d'un livre sur le grand poète russe Pouchkine. Boris Vassiliev avait connu la prison, les camps, la relégation. Lui et sa femme organisaient dans leur appartement des conférences sur la culture et la religion, ainsi que des réunions d'études du Nouveau Testament. Sa femme faisait un cours de catéchisme pour les enfants. De telles initiatives, impensables avant la guerre, ne devaient toutefois pas rester possibles très longtemps. Quant à Alik, Alexandre, il était extraordinairement doué et précoce et assoiffé de connaissances. Quand il eut 10 ans à la fin de la guerre, Vera lui expliqua que la vie ne se divisait pas en deux, d'abord celle de l'enfant, puis celle de l'adulte. La vie était une, et ce que l'on n'avait pas pu faire dans son enfance, on ne pouvait jamais le rattraper. Aussi fallait-il, sans attendre, se fixer des objectifs sérieux et s'efforcer de les atteindre le plus tôt possible. Comme beaucoup de familles moscovites à cette époque, celle d'Alik devait partager avec plusieurs autres un appartement communautaire et s'entassait à 5 personnes dans une pièce unique. Les parents, les 2 garçons et Vera. Alors, Alexandre isola son lit et sa table de nuit, bourré de livres, derrière un paravent. Le soir, il préparait ce qu'il avait décidé d'étudier le lendemain, se coucher à 9h, même s'il y avait des invités intéressants ou s'il était tenté par une émission à la radio. Il se levait de bon matin et pendant que tout le monde dormait, il lisait. En ses heures d'études matinales, il s'attaquait aux ouvrages les plus ardus pour un enfant de son âge, lisant par exemple Kant à 13 ans, tandis que ses congénères apprenaient que le marxisme-léninisme, enrichi par le génial Staline, était la seule théorie philosophique donnant un tableau scientifique du monde, défendant les principes et les méthodes scientifiques d'explication de la nature et de la société, et fournissant à l'humanité travailleuse l'instrument de la lutte pour la construction du communisme et autres galimatias. De l'enseignement dispensé par son école, l'école de garçons, il devait d'ailleurs garder une impression plutôt sinistre. En revanche, elle comptait parmi les élèves qu'il a fréquentés en même temps que lui quelques fortes personnalités qui ont acquis plus tard une renommée internationale. Le poète Voznesensky et le cinéaste Tarkovsky. Un camarade qui lui était très lié, Alexandre Borisov, devait lui aussi se faire ordonner. Aujourd'hui curé d'une paroisse en plein centre de Moscou, il est réputé comme un prêtre particulièrement actif. Notre prochain rendez-vous, nous verrons les années de jeunesse d'Alexandre Men.
C'était la biographie d'Alexandre Men, martyr et grande figure de l'œcuménisme pour notre temps, une émission spéciale sur Radio Espérance avec Hélène.